celui qui vient à moi. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, travaillés et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Louange à toi, Seigneur Jésus, de nous aimer d'un tel amour et de nous accueillir au plus profond de ton cœur pour notre bonheur et pour ta seule gloire devant le Père. Puisses-tu ce matin jouir du fruit du travail de ton âme en chacun de nous et en être satisfait. Amen. Je vous invite encore, pendant que vous êtes debout, à chanter le cantique 48. Afin que nos yeux se portent sur le lieu où Dieu a constaté l'amour qu'il a eu pour nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort sur la croix. Regarde m'angoissé au mourant du calvaire. C'est là que ton sauveur contemplait mon frère. Un seul regard et toi sauvé. Regarde et crois, pour lui est le pardon, descende du calvaire. Oh, regarde, regarde à la croix. Pourquoi tu t'es frappé par les poudres divines? Pourquoi sont-ils sur la croix attachés? Pourquoi ton front sacré fut-il meurtri d'épines? Sinon pour toi, pour ton péché. Regarde et crois, la vie et le pardon descendaient du lion. Tu es passé. Mes bien-aimés, c'est une joie de pouvoir entourer la personne de Jésus. Et je sais que nous donnons de la joie au ciel, de la joie au cœur du Père, quand il voit quelques-uns de ceux que Jésus a tant aimés et qui ont été rachetés à un si grand prix, se souvenir de l'œuvre qu'a accomplie son Fils. Et témoigner aussi à ce Père leur reconnaissance. Lui qui nous a tant aimés et qui nous a donné ce qui était de plus cher à son cœur, son unique. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Le ciel s'est dépouillé de toute sa gloire en quelque sorte pour que nous puissions participer à cette gloire éternelle. Nous sommes si bornés, nous sommes si insensés que l'Esprit Saint vraiment nous pénètre et que nous puissions saisir de nouveau quelle est notre vocation, une vocation vraiment céleste. Nous sommes maintenant les objets de la grâce, que serons-nous bientôt? Nous serons dans la gloire. C'est à cette gloire qu'il nous appelle, alors marchons dans ce monde, conscients de cette vocation, par la puissance seule du Saint-Esprit. Alors en ce dimanche 20 juillet 1986, nous continuons notre étude du cantique des cantiques pour introduire ce culte d'adoration toujours sur ce thème qui donc est Dieu. Nous relisons les premiers versets du cantique des cantiques que nous avons médité déjà hier soir et auxquels nous ajoutons ceux qui seront l'objet plus particulièrement de notre méditation de ce matin, les versets 5 à 7. Mais pour laisser le tout dans le contexte, et sachant qu'hier soir, plusieurs d'entre vous étaient peut-être un peu fatigués, il sera bien utile de nous rafraîchir la mémoire au sujet de ces textes merveilleux. Le cantique des cantiques qui est de Salomon. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car tes baisers, car tes amours sont meilleurs que le vin. Tes parfums sont d'agréables odeurs. Ton nom est un parfum répandu. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Tire-moi, nous courons après toi. Le roi m'a amené dans ses chambres. Nous nous égayerons et nous nous réjouirons en toi et nous nous souviendrons de tes amours plus que du vin. Elle t'aime avec droiture. Je suis noir, mais je suis agréable. Fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les tentures de Salomon. Ne me regardez pas parce que je suis noir, parce que le soleil m'a regardé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont mis à garder les vignes. Ma vigne qui est à moi, je ne l'ai point gardée. Dis-moi, toi qu'aimes mon âme, où tu paies ton troupeau, où tu le fais reposer à midi, car pourquoi serais-je comme une femme voilée auprès des troupeaux de tes compagnons? Si tu ne le sais pas, ô la plus belle parmi les femmes, sors sur les traces du troupeau et paie tes chevreaux près des habitations des bergers. Que cette parole qui est la vérité nous sanctifie ce matin. Nous chantons ce petit chœur. Révèle ton livre à ma foi, rends-le vivant, ô Dieu, pour moi, que je m'y vois en ma laide, et dans ta beauté, mon sauveur. Encore une fois. Révèle ton livre à ma foi, rends-le vivant, ô Dieu, pour moi, que je m'y vois en ma laide, et dans ta beauté mon sauveur. Mes bien-aimés, je vous rappelle ce matin que nous avons accepté d'être à l'école de Jésus pour lire, pour comprendre et pour garder l'enseignement du Cantique des Cantiques. Cet Apocalypse, cette révélation du Messie, de Jésus-Christ, que Dieu nous a donné déjà dans l'Ancien Testament pour ramener nos cœurs dans le feu du premier amour. Est-ce là votre désir? Vous avez connu un jour cet amour premier pour le Seigneur. Vous y avez goûté, mais hélas, depuis, vous devez constater que la flamme n'est plus la même. Eh bien, nous croyons, même si nous ne sommes pas aux Champs-Élysées, sous l'Arc de Triomphe, nous croyons qu'aujourd'hui, le Seigneur, par sa parole, veut ranimer la flamme de notre cœur. Non pas en présence d'un soldat inconnu, mais en présence du bien connu, le Seigneur Jésus, et qui peuple toutes les Écritures. Il va raviver cette flamme, il va renouveler notre amour par les textes que nous venons de lire. Et nous serons, comme il l'est dit, pour ceux qui lisent l'Apocalypse, des bienheureux. Bienheureux, celui qui lit, celui et qui entend, qui comprend, et celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et c'est Jésus qui est l'esprit de la prophétie. C'est Jésus qui est la clé de tous les livres de l'Écriture sainte. Alors, la première règle à l'école de Jésus, c'est de lire avec un cœur d'enfant. Ne connaissant pas les objections des théologiens, nous attribuons donc le Cantique des Cantiques à qui? Au roi Salomon, car il est écrit que ce cantique est de Salomon. Nous prenons cette parole comme un enfant qui la croit et qui n'a pas ce surplus de connaissances qui nous rend stupides. Car vous êtes devenus stupides, nous dit l'Écriture, avec toutes vos connaissances. Vous ne savez plus rien, vous doutez de tout. Beaucoup d'études lassent la chair. À écrire beaucoup de livres, il n'y a pas de fin, dit l'Ecclésiaste. Et c'est tellement vrai. Et plus on en lit, plus on est embrouillé. Et c'est une joie de revenir à la source, à la parole de Dieu, vivante et permanente, et de croire que son esprit peut encore nous éclairer et nous donner une nourriture solide et que nous pouvons vraiment assimiler. Et j'ai été très touché hier soir que Douglas, notre frère bien-aimé, nous veut souligner ce fait que ce que nous savons de Salomon, c'était qu'il était le fils de David. Et que dans les évangiles, Jésus lui-même était appelé le fils de David. Donc, quand nous lisons que c'est un cantique de Salomon, cela dépasse Salomon. Il y a plus que Salomon, a dit Jésus. Il y a le Seigneur lui-même, le roi pacifique, par excellence. La deuxième règle que je vous ai citée, c'est de prendre garde à la manière dont nous écoutons. C'est Jésus qui nous dit cela, Luc 8, verset 18. Ainsi, nous nous rappellerons, parce que vous avez écouté le livre du Cantique des Cantiques en son entier, nous nous rappellerons que nous avons lu au chapitre 6, au verset 13e, un texte qui va nous apprendre, qui aurait dû nous apprendre, le nom de cette bien-aimée de Salomon, de celle qui réclame les baisers de la bouche du roi. Elle s'appelle Sunamite. Et Sunamite, c'est le féminin de Salomon. Comme Jules et Julie. Salomon, Sunamite. Hein? Qui veut dire, en quelque sorte, la pacifier. Et voyez-vous, quand vous arrivez au dernier chapitre du Cantique des Cantiques, il est dit qu'elle fut comme celle qui a trouvé, vous vous souvenez, la paix. Oh, que je demande au Seigneur que ce matin vous soyez comme celle qui a trouvé la paix, la vraie Sulamite, la pacifiée. Et vous le savez, ce nom était porté par la dernière femme de David. Habitante de la ville de Sunem, cette jeune fille, lisons-nous, elle était très belle, la plus belle. Et c'est elle qui a été choisie pour David, qui était si vieux qu'il n'arrivait pas à se réchauffer dans son lit. Et alors on lui a conseillé de prendre cette belle jeune fille pour réchauffer ses vieux os. Il y a des histoires qui sont belles dans l'écriture. Si vous voulez y mettre un esprit égrillard, vous pouvez, mais vous vous priverez de la grande bénédiction de Dieu. Car si vous lisez vraiment l'écriture, vous verrez que Sunamite n'était pas seulement une belle jeune fille, mais qu'elle était vierge. Et puis, vous apprendrez que si elle a pu réchauffer un peu David, David ne l'a connue point. Dans le sens du mot connaître, qui est la relation sexuelle dans l'écriture, il ne l'a connue point. Donc, selon la signification profonde du mot connaître. Alors, cela nous montre que nous n'allons pas lire ce livre d'une façon charnelle, mais spirituelle. Et cela nous amène à une troisième règle que je vous ai citée aussi. Pour comprendre les Écritures, il nous faut le Saint-Esprit, qui a lui-même inspiré ces textes. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre ces textes. Car, je vous l'ai cité, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1 à 16, l'homme animal, l'homme naturel, ne saurait recevoir les choses qui viennent de l'Esprit. C'est une impossibilité pour lui. Et voyez-vous, pour comprendre les choses spirituelles, il faut le Saint-Esprit. Qui de l'homme connaît les choses qui sont en l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Et pour connaître les choses de Dieu, on ne les connaît que par l'Esprit de Dieu. Dieu est Esprit. Et il veut aussi que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité.
Alors, pour avoir le Saint-Esprit, que faut-il? Il faut, disait Jésus à Nicodème, être né de nouveau. Il faut être né de nouveau. De sorte que ce livre ne s'ouvre que pour les croyants. Et nous vous avons cité Apocalypse, chapitre 14, verset 3, sur la montagne, on chante un cantique nouveau, mais seuls peuvent le chanter ceux qui suivent l'agneau ou qui l'aillent. Seuls peuvent le chanter, je vous citerai encore une fois ce texte, parce qu'il est important. Ce sont ceux, verset 4, qui ne se sont pas souliés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. C'est cela que nous devons être, des prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Et c'est cela qui est merveilleux. Nous ne nous, nous sentons pas irrépréhensibles. Et si nous regardions à nous-mêmes, nous ne nous approcherions pas de la table du Seigneur. Nous nous sentirions toujours indignes. Mais Dieu nous déclare déjà irrépréhensibles parce qu'il nous voit dans les perfections de son Fils. Et vous serez tel un jour, vous serez irrépréhensibles. Et à l'avance, il vous dit qu'il vous voit déjà irrépréhensible. C'est si merveilleux. Et nous avons cité là l'exemple de Gédéon qui voit le Seigneur, qui le regarde et qui lui dit « Le Seigneur est avec toi, fort et vaillant héros. » Lui ne se sent pas fort, lui ne se sent pas un vaillant héros, mais c'est le Seigneur qui lui dit. Alors croyez ce que le Seigneur vous dit. Prenez non pas votre sentiment, vos sensations, vos impressions à votre sujet pour être étant valable, prenez ce que Dieu vous dit, emparez-vous de la parole, c'est ça la foi. Vous faites un avec la promesse de la parole et vous êtes devant Dieu irrépréhensible. Nous pouvons paraître devant lui sans conscience de péché. Voilà le sang de l'agneau, l'efficace du sang de l'agneau. Voyez-vous, dans l'histoire de la Pâque, dans l'Exode, ce n'était pas le sentiment du jeune homme israélite qui était dans la maison de son père et qui comptait. Il pouvait se dire, mais si l'ange de l'Éternel va tuer tous les premiers-nés d'Égypte, est-ce que moi je suis digne d'échapper? Il n'y avait rien à faire avec cela. Il pouvait être aussi dans la crainte, car savoir que l'ange de l'Éternel allait passer dans tous les foyers d'Égypte, c'était quelque chose. Mais qu'est-ce qui pouvait le rassurer? Il avait vu son père, entre les deux soirs, égorger un agneau, selon l'ordre de Moïse, et répandre le sang sur les linteaux et les poteaux des portes. Le sang était à l'extérieur, mais le Fils savait que le sang avait été répandu, et c'est à cause du sang qu'il était épargné. Dieu verrait le sang. Et c'est cela qui doit vous réjouir. Dieu voit le sang. Et vous êtes couvert par le précieux sang de Jésus. Ce ne sont pas vos sentiments qui doivent compter aujourd'hui. C'est la certitude que l'œuvre qui vous sauve a été accomplie, que vous ne pouvez rien y ajouter et que vous ne pouvez rien en retrancher. Cette œuvre, elle est parfaite. Et c'est dans les perfections de son Fils que Dieu vous contemple maintenant. Donc, ce cantique est pour ceux qui croient, qui ont été rachetés. Donc, si on a été rachetés, c'est que nous étions autrefois des vendus, bien oui, nous étions vendus à Satan, vendus à ses puissances, nous étions esclaves de nos sens, esclaves de nos péchés, mais il nous en a libérés. Et voyez-vous, pour aller plus loin, je passe à une quatrième règle, et qui est de se souvenir que toutes les Écritures nous parlent du Christ. Jésus disait au chapitre 5 de Jean, verset 39, que toutes les Écritures rendaient témoignage de lui. Donc, dans l'Ancien Testament, qui sont appelées les Écritures, ce que nous devons rechercher, c'est la personne de Christ. Et dans le Cantique des Cantiques, le vrai secret de la bénédiction, c'est d'y rechercher la personne du Seigneur. Non pas beaucoup de choses édifiantes, parce qu'il faut encore veiller à cela. Mais il faut trouver quelqu'un, Jésus. Alors, dès que nous discernons Jésus dans l'Ancien Testament, nos cœurs, comme le cœur des disciples d'Emmaüs, se mettent à brûler d'amour et de désir. Et, alors vous comprenez, ce n'est plus le baiser de la bouche de Moïse que l'on désire. Ce n'est plus le baiser de la bouche d'Isaïe. Moïse a la langue pesante, disions-nous, en citant la parole. Ésaïe nous dit qu'il a les lèvres impures, mais elles ont été purifiées. Ce n'est pas de la bouche de Jérémie, ou l'un des prophètes. Jérémie nous dit qu'il n'est qu'un enfant, qu'il ne sait pas parler. Nous avons un autre désir, c'est d'être embrassé, de connaître cette affection extraordinaire de celui qu'on ne nomme pas. Pour quelle raison? Parce qu'il remplit notre cœur. Et vous vous souvenez de Marie-Madeleine? De quoi son cœur était-il occupé à cette grande pécheresse pardonnée totalement? Elle est au jardin de Joseph. Elle pleure et tout à coup, devant le sépulcre vide, elle entend une voix qui lui dit « Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu ?» Et elle de répondre « Mais si c'est toi qui l'as enlevé, de qui parle-t-elle » Elle pense que c'est le jardinier, mais elle ne lui dit pas qui elle cherche. Il semble qu'il doit savoir ce qu'elle cherche. C'est son bien-aimé. « Si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et moi je l'ôterai. » Elle ne pense pas à la faiblesse qui la caractérise. Comment est-ce qu'elle va porter le corps de son Seigneur? C'est tellement merveilleux la parole. Elle ne le nomme pas, mais elle est remplie de lui. Et Jésus se révèle à lui. « Marie, Rabboni, ben, et c'est l'adoration. Elle tombe à ses pieds. Que c'est merveilleux. Toute la parole de Dieu, inspirée de Dieu, est pénétrée de son esprit. Alors nous n'avons pas besoin de savoir tout de suite de qui elle parle. Nous le comprenons, celui qu'elle réclame, celui qu'elle désire, c'est le Seigneur. Et hier soir, nous avons donc commencé à comprendre que le Cantique des Cantiques concernait les étapes du développement de l'âme qui vit avec Dieu et qui veut se nourrir des paroles de sa bouche. Voilà comment vous devez le lire pour en avoir une grande et riche bénédiction. Nous sommes donc en présence d'un livre très saint. Je dirais que devant le Cantique des Cantiques, nous sommes comme Moïse, devant le buisson ardent, il faut ôter les sandales de nos pieds. L'Esprit nous affranchit de tout ce qui est charnel. Et au lieu d'être offusqué par le langage qui s'y trouve, nous comprenons que ce langage fait partie de cette humiliation de celui qui était de condition divine et qui a accepté de revêtir un corps avec des sens, un corps avec des yeux, des oreilles, une bouche, des mains, des pieds. Lui, le Dieu éternel, le Dieu esprit, il s'est abaissé au point de risquer de n'être pas reconnu et il est venu sur cette terre avec un corps, parce que sans cela nous n'aurions pas connu le Seigneur. Tu n'as pas voulu d'offrande, de sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Et il fallait un corps pour que Dieu se révèle d'une façon plus parfaite. les théophanies, c'est-à-dire les apparitions du Seigneur avant son incarnation permanente dans l'Ancien Testament, étaient toujours des apparitions de gloire, tandis que ce que l'homme ne pouvait pas supporter, le Seigneur s'est abaissé, il a revêtu notre corps, et les bergers de Bethléem ont pu l'approcher sans mourir, contempler Dieu dans ce petit enfant. Et Siméon, le vieillard, arrivé à la fin de ses jours, quand il est dans le temple et qu'il voit Marie et l'enfant dans ses bras, il prend l'enfant dans ses bras et dit, oh, j'aime cette expression, je la répète souvent, mais ça ne fait rien. Mes yeux ont vu ton salut. C'est quelqu'un, ce n'est pas quelque chose. Ce n'est pas un passeport pour le ciel, ce n'est pas un billet de chemin de fer, première classe, wagon-lit, pour arriver au paradis. Non, mes amis, c'est quelqu'un, le Seigneur Jésus, c'est lui-même. Le salut, ce n'est pas une assurance contre l'incendie éternel, contre les flammes éternelles. Le salut, c'est Jésus. Alors que la grâce de Dieu nous soit donnée et que nous puissions comprendre ce cantique des cantiques, non pas à la manière charnelle, mais d'une manière spirituelle. Et ce langage qui s'y trouve, je le répète, c'est celui qui fait partie de l'abaissement du Seigneur. Pour que nous puissions comprendre sa tendresse, son amour, il a employé le langage humain d'un homme qui parle à une femme bien-aimée, une femme qu'il chérit. Et nous avons souligné hier cette piste de réflexion que, comme je dis souvent, vous devez vous-même élargir et en faire de vastes avenues parce que nous n'avons fait qu'effleurer ces sujets, les baisers, méditer sur les baisers de la parole, sur cette expression de l'amour, de la tendresse, le nom du Seigneur, méditez sur cette deuxième piste, le nom au-dessus de tout nom, les parfums d'agréable odeur, méditez sur la fabrication d'un parfum, comment composait-on un parfum, lisez l'Exode, et vous verrez que tous les éléments qui forment un parfum devaient être broyés, brisés, eh bien, il a fallu aussi que le Seigneur soit en quelque sorte broyé, brisé. Que la grâce de Dieu vraiment nous soit donnée pour que nous puissions comprendre comment un parfum se forme et que nous comprenions aussi que le Seigneur n'accepte qu'un esprit brisé et humilié. C'est cela le parfum de bonne odeur. Et l'attrait qu'il provoque chez les jeunes âmes, nous l'avons souligné dans une quatrième piste de réflexion. Le besoin aussi qu'il nous attire de plus en plus à lui, plus près de lui. Le bonheur et la joie que nous avons d'être accueillis dans son intimité, dans ses chambres, hein. Et puis les amours meilleurs. Que le vin, le donateur plus précieux que les dons, le fruit de la vigne qui est un don de Dieu. Alors je pense que votre âme sera nourrie et que vous ne vous plaindrez plus de votre prêtre ou de votre pasteur qui ne savent pas nourrir vos âmes. Vous vous nourrirez vous-même de la parole de Dieu. Et continuons dans cette ligne qui veut que tout ce qui a été écrit nous serve d'exemple, c'est une cinquième règle. Nous voyons dès le verset 5 ce que nous apprenons dans les chambres du roi. Qu'est-ce qui nous arrive une fois sauvés et que le Seigneur nous amène à plus d'intimité avec lui, que nous avons passé vraiment dans les chambres du roi. Bien, il nous arrive une chose qui pourrait être troublante, c'est qu'on ne s'est jamais vu si noir. Le jour de notre conversion, on se croyait mauvais. Hein. Mais une fois qu'on vit un peu avec le Seigneur, il nous révèle la noirceur de notre état. Et vous savez, c'est une preuve de progrès. Quand nous perdons toutes nos illusions de convertis et que nous voyons ce que nous sommes à la lumière du Seigneur. Regardez un Job dont Dieu rendait pourtant un si merveilleux témoignage. Quand il s'est vu dans la lumière de Dieu, il a dit, j'ai horreur de moi. Et nous, nous pourrions dire, mais moi je me tiens debout, comme on aime dire au Québec, hein. Nous nous tenons debout. Ben non. Quand on est au Seigneur, on est brisé. Quand on a affaire avec le Seigneur, on se prosterne. Et c'est cela qui nous pousse à l'adoration. Je suis noir. Ça ne veut pas dire je suis une négresse. Pas du tout. Hein. Je suis noir. Pour quelle raison? Je suis bruni. Pour quelle raison? Ben parce que le soleil m'a regardé. Et qui c'est le soleil? Qui est votre soleil? Qui est un soleil, un bouclier? Psaume 84, c'est le Seigneur. Il est un soleil. Et quand le soleil nous a regardés, oh, j'aime à penser au soleil levant, le début de notre conversion. Mais ensuite, il est dit le sentier du juste, et comme la lumière resplendissante qui va croissant jusqu'au plein midi. Il y a une progression. Et dans le cantique de Déborah, le dernier verset, il est dit que ceux qui l'aiment sont comme le soleil quand il sort dans sa force. Dans le psaume 19e, il a encore parlé de ce soleil qui sort de sa chambre nuptiale et qui parcourt l'étendue et rien ne se dérobe à sa chaleur. Il nous faut nous laisser pénétrer par ce soleil et être dans cette lumière. Oui, alors, dans cette lumière, on se voit tel que nous sommes. On perd nos illusions, la chair ne s'améliorera pas. Paul peut dire, je sais qu'en ma chair, il n'habite point de bien. Alors nous ne nous lamenterons plus, nous n'essayerons plus ces efforts charnels qui nous mèneraient à une espèce de dépassement, alors que pour la chair, il n'y a qu'une place, c'est la croix. La crucifixion, mort avec Christ, c'est dans la mort de Jésus que ma chair doit être tenue par les clous à la croix de Golgotha. Oui, je suis noir, mais pourtant je suis agréable. Mais comment agréable? Éphésiens chapitre 1, verset 6, nous avons été rendus agréable dans le bien-aimé. Qui est-ce qui faisait toujours les choses qui étaient agréables au Père? C'était Jésus. Jean chapitre 8. Eh bien, en lui qui a été le seul agréable, puisque Dieu a pu dire, j'ai mis en lui tout mon plaisir, eh bien, c'est en lui que nous avons été rendus agréables. Nous sommes comme recouverts de la livrée du Christ. Nous sommes cachés en Christ dans un vêtement de lumière, la plus belle robe. C'était pas une robe qu'il avait déjà portée autrefois, l'enfant prodigue. C'était un vêtement tout à fait nouveau. La plus belle robe. Une robe tout à fait nouvelle. Eh bien, que le Seigneur parle à nos cœurs et réveille nos tendres affections pour lui et renouvelle notre compréhension. Mais évidemment, dès que nous faisons une telle expérience, noire comme les tentes de Kédar. Kédar, c'était les Ismaélites. Et l'on sait que les Ismaélites vivaient sous des tentes qui étaient entièrement noires. Et quand on va encore dans l'Orient et que l'on voit les tentes des Bédouins, ce sont des tentes noires. Hein. L'extérieur de la tente est noir. J'ai été invité une fois par un Tchèque dans une grande tente près de Beersheba dans le désert. Et de loin, évidemment, cette tente noire, elle n'a aucun attrait. Mais une fois qu'on entrait, il y avait des coussins, il y avait des tapis. On était moelleusement assis. assis, couchés, plus ou moins. Et puis, on avait des repas délicieux. Il y avait la femme de l'autre côté, derrière la toile, n'est-ce pas? Ça faisait penser à Sarah. Mais tout cela, on peut le vivre encore. Je suis noir. Mais à l'intérieur, je suis belle. Hein? Je suis agréable, comme les temps purs de Salomon. Ça, c'est la vie intérieure. La vie extérieure, ben, mon corps, il n'est qu'une tente. Et je sais bien que cette tente, eh bien, je vais bientôt la déposer. Elle sera détruite. Mais nous avons un édifice de la part de Dieu, qui est une demeure éternelle, qui est dans les cieux. On ne trouvait pas si merveilleux. Avoir cette beauté intérieure dont parle l'apôtre Pierre au sujet d'une femme, la femme cachée du cœur. Cet esprit doux et paisible devant Dieu. Extérieurement, nous sommes noirs. Oui, nous n'avons pas d'attrait pour le monde. Le monde ne nous connaît pas parce qu'il ne l'a pas connu. On détournait la face de Jésus. Pourquoi ? Il n'avait rien en lui pour nous le faire désirer. Or, nous, nous voulons nous rendre désirables. Mais pour qui? Pour qui? Pour que vous puissiez tomber plus vite. Vous voulez être désirable. Soyez désirable pour le Seigneur. Mais n'essayez pas d'être désirable en vous mettant en chasse pour avoir un homme. Laissez le Seigneur agir et vous verrez ce qu'il fera. Soyez belle à l'intérieur. Comme cette Sarah, qui était pourtant vieille, et dont Abraham pouvait dire encore, « Je sais que tu es belle. » C'est beau. « Je sais que tu es belle. » Elle avait près de 100 ans. « Je sais que tu es belle. » Voilà la beauté intérieure. Noire extérieurement, mais belle à l'intérieur. Alors ne me regardez pas parce que je suis noire. Parce que le soleil m'a regardé, oui, j'ai conscience que je suis noir, j'ai conscience de mes faiblesses, j'ai conscience que je suis le dernier des derniers. Je reste dans l'humilité parce que j'ai conscience de ce que je suis. C'est comme Paul qui disait, je suis le premier des pécheurs. Et voilà, vous ne pourrez mettre votre nom qu'après le sien. C'est lui qui a pris ce titre, le premier des pécheurs. Vous aimeriez être le premier des pécheurs ? Il y en a déjà un, c'est Paul. Ayez l'humilité de mettre votre nom après. Soyez le deuxième, troisième, quatrième. Alors voilà qui vous donne encore courage. Car Paul nous dit qu'il était un blasphémateur, un persécuteur, un outrageux. Mais miséricorde lui a été faite. Miséricorde lui a été faite parce qu'il devait nous servir d'exemple. Pour que nous ne soyons pas découragés. Si le Seigneur a fait cela pour Paul, il veut le faire pour vous. Et croyez-le. Et nous passons plus loin, mais vous méditerez, n'est-ce pas? Ne me regardez pas parce que je suis noir, le soleil m'a regardé, mais les ennuis commencent. Les fils de ma mère. Qui est ces fils de notre mère? Qui est notre mère? C'est la nature humaine. Hein? C'est la nature humaine qui est notre mère. Nous sommes nés de la chair. Et ce qui est né de la chair est chair. Les fils de ma mère, ce sont nos frères dans la chair. Hein? Nos frères dans la chair qui ne nous comprennent plus. Vous êtes convertis, vous vous êtes donné à Dieu, vous aspirez à une vie de sainteté, et alors on vous dit, mais tu exagères. Un peu de religion, un peu de vernis, mais tu exagères. Et puis, il y a d'autres tâches dans ce monde. Et on nous montre toutes les villes, toutes les nations de la terre, qu'il faudrait peut-être d'abord évangéliser. C'est vrai que le Seigneur a dit, allez par toute la terre, prêchez l'évangile à toutes les nations. Mais maintenant, c'est pas tellement évangéliser qu'on vous demande de faire. Hein. C'est pas même de christianiser. C'est d'apporter de la nourriture. C'est vrai tout cela. Mais on veut vous mettre gardienne des vignes. On veut vous faire servir. On veut vous enrôler dans un tas d'œuvres qui vont vous fatiguer, vous crever, vous décevoir. Tandis que Dieu aurait besoin de vous pour accomplir, lui, dans sa dépendance, sa volonté. Et les coffres du Seigneur ne sont pas vides. L'or et l'argent sont à lui. Tandis que maintenant, dans toutes les œuvres religieuses, presque, on n'est plus qu'à demander de l'argent, à faire connaître des besoins, puis on appelle ça des œuvres de foi. On ne sait plus entrer dans sa chambre, fermer la porte sur soi et exposer à Dieu les besoins en disant, si tu veux cela, tu le donnes. Et alors on le voit. Et c'est cela qui augmente notre louange et qui donne vraiment de la puissance, parce qu'on s'aperçoit qu'on a un Dieu qui nous répond et qui sait calculer. Il ne donne pas plus, mais il ne donne jamais moins. Il donne le nécessaire. Et c'est un vrai bonheur de vivre avec le Seigneur. Mais vous voyez, ces fils de notre mère, on ne nous comprend pas, oui, un peu de religion, ça va, mais pas plus. Et puis, on voudrait tout de suite nous montrer des tâches dans cette crise économique, toutes les tâches que nous pouvons accomplir. Nous avons des tâches à accomplir, mais pour nous, chrétiens, ce sont les œuvres que Dieu a préparées d'avant. Des œuvres préparées d'avance, non pas des œuvres dirigées par des gens du monde. Vous avez beaucoup donné, puis vous apercevez qu'il y a des gens qui ont tout mis dans leur poche. C'est pas cela. L'œuvre de Dieu est l'œuvre du Seigneur. Et voilà ce qu'on trouve déjà dans le cantique des cantiques. Les fils de ma mère, oh, nous les connaissons. Hein. Ils se sont irrités. On ne vous comprendra pas. On vous mettra à garder vos vignes, et puis votre vigne à vous. Votre âme précieuse, vous n'avez plus de temps pour vous. Vous n'avez plus de temps pour cultiver votre propre piété, votre amour pour le Seigneur. Vous êtes noyé par vos activités et par le bruit de vos activités, par les rapports que vous devez faire. Et comme il faut que ça mousse un peu, ben vous faites mousser encore. Et nous devenons des menteurs dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes forts dans les additions et nous oublions qu'il y aura de terribles soustractions. Car de tout ce dont on se glorifie, il n'en sera pas fait mention dans le ciel. Ce sont les œuvres inconnues qui seront manifestées dans la gloire. Alors, soignez un petit peu votre vigne. Et tout à coup, verset 7, c'est une nouvelle demande. Dis-moi, toi qu'aimes mon âme. Vous voyez que l'amour a grandi. Dis-moi, toi qu'aimes mon âme. Oui, on a retrouvé un amour pour le Seigneur. Comme Pierre après sa restauration. Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Eh bien, oui, Seigneur, toi qu'aimes mon âme. Dis-moi. Où tu paies ton troupeau. Voilà que tout à coup, on se sent seul. Hein? On se sent seul, puis on aurait besoin d'avoir un peu de compagnie. Alors on s'adresse au Seigneur. Est-ce que tu n'as pas un troupeau auquel je puisse me joindre? Parce que on ne doit pas rester solitaire, loin de la communion de nos frères. On éprouve à un moment donné le besoin d'une communion avec d'autres. Eh bien, on voudrait savoir où il paie son troupeau, puis on voudrait connaître ce repos de midi. J'aime tellement cette expression. Le repos de midi, méditez sur ça, est-ce que vous le connaissez? Le repos de midi, ou bien vous êtes toujours dans cette recherche qui vous déçoit. Vous faites le tour des églises, toutes les églises, les unes après les autres, puis vous êtes déçus, vous cherchez l'église parfaite, oubliant que dès le moment où vous y seriez, cette église ne serait plus parfaite. N'est-ce pas parce que vous y seriez? Alors ne recherchons pas l'église parfaite, recherchons le berger du troupeau. Et puis, le Seigneur nous conduira. Et il nous conduira à ce repos de midi. J'aime le repos de midi. La femme samaritaine, à midi, elle s'est convertie. Elle avait trouvé celui qui donne le repos à midi, alors qu'elle était si souvent travaillée, perturbée. Elle avait eu cinq maris, le sixième avec qui elle était n'était pas son mari, mais le septième est venu. Et l'a libérée parce que le sixième sous lequel elle était dominée, par lequel elle était dominée, n'était pas son mari. Elle pouvait être libre pour appartenir au septième. C'est merveilleux. Tout est merveilleux dans sa parole. Et puis l'apôtre Paul, ce sol de Tarse bouillant pour Dieu, pour la cause de Dieu, et au fond qui ne faisait que verser le sang, jaillir les larmes, et puis voilà que tout à coup, toute cette énergie tombe sur le chemin de Damas. Il est midi, et il va entrer dans le repos de midi. Parce qu'il a vu le Seigneur. N'ai-je pas vu le Seigneur? Il a vu celui dont parlait Étienne, debout à la droite de Dieu, avait dit Étienne. Et voilà que Saul de Tarse apprend qu'Étienne n'était pas un menteur, n'était pas un visionnaire. Il l'a vu lui-même. Et il a connu le repos de midi. Et il y aurait d'autres exemples. Pierre. En prière, à midi, sur le toit que j'aime beaucoup à Jopé, eh bien là, il est en prière, tout à coup il a faim, à midi, alors il demande qu'on lui prépare de la nourriture. Et c'est à ce moment-là qu'il a la vision de qui va le mener chez Corneille, le préparer pour qu'il puisse aller chez Corneille, lui qui est un juif et qui ne serait jamais allé chez un païen. Midi, midi dans la vie. Connaissez-vous le repos de midi? Alors, qu'est-ce que le Seigneur répond? Car elle ne voudrait pas être comme une femme voilée auprès des troupeaux de ses compagnons. Le Seigneur a beaucoup de compagnons, n'est-ce pas? Mais on a vu les prophètes, on a vu bien des rassemblements, les compagnons du Seigneur. Mais ce qu'on voudrait... Ce n'est pas eux des compagnons du Seigneur, on voudrait le Seigneur lui-même. On voudrait non pas errer là près des troupeaux des bergers qui sont les compagnons du Seigneur, être comme une femme voilée. Qu'est-ce que c'est une femme voilée là? Eh bien, ici, la femme voilée, c'est plutôt une femme suspecte. Vous voyez, Tamar était voilée, et puis elle s'est prostituée, justement, parce qu'elle n'a pas été reconnue. On voudrait faire entrer dans un de ces troupeaux, et non pas être une de ces âmes errantes, une brebis errante, suivant chacune son propre chemin. Nous l'avons tous été des brebis errantes. Mais le Seigneur est venu pour que les brebis ne soient plus errantes et il est le bon berger. Et c'est cela que nous apprenons. Il était le roi, il est roi, mais maintenant il est berger. Le Seigneur est mon berger. Psaume 23, Ézéchiel chapitre 34. Lisez ce qu'est le berger, les qualifications du berger. On ne veut pas être avec n'importe quel compagnon du Seigneur. On a besoin du Seigneur lui-même. Parce que les bergers, au cours des siècles, il y a eu beaucoup de mauvais bergers. Seul le Seigneur est le bon berger. Élie, par exemple, le sacrificateur, il n'était pas un bon berger. Il n'a pas su discerner la détresse d'âne. Il a cru qu'elle était ivre. Il l'a traitée d'ivrognesse, alors qu'elle était dans la douleur, dans les pleurs. Il n'avait pas le discernement spirituel, puis il était pourtant le sacrificateur de l'Éternel. Il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans ton vin? Puis elle lui dit, mais tu ne vois pas, je suis en train de prier, mon âme est dans la douleur, je pleure. Et elle est exaucée par le Seigneur. Il y a des bergers qui sont des bouchers. Il tue les brebis. Tandis que le bon berger, le berger d'Ézéchiel, la perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai, la malade, je la fortifierai, la blessée, je la panserai. Voilà les soins du bon berger. C'est le souverain berger dont nous avons besoin, dont il est parlé dans Hébreux chapitre 13. Nous voulons le souverain berger. Nous ne voulons pas seulement des compagnons du Seigneur. Nous voulons le souverain berger. Parce que nous ne voulons pas errer auprès des troupeaux, des compagnons. Chacun dit mon église, mon église, mon église. Comme le disait mon ami Jacques Blocher de Paris un jour. Les pasteurs qui parlent de leur église, mon église, comme un coq sur son fumier, disait-il. Parce qu'au fond, oui, c'est ça. C'est ça. Et oui, parce que quand on voit un peu ce qui se passe dans nos milieux, c'est pas si beau que ça. Puis ça ne sent pas si bon, même que nous parfumons le fumier. Alors, attention au fumier parfumé. Alors que le Seigneur nous garde, nous voulons le Seigneur. Si tu ne le sais pas, et vous voyez, comme il excuse même notre ignorance, c'est pas parce que nous sommes ignorants qu'il nous aime moins, ou qu'il nous trouve moins beau. Tu es ignorant, tu ne connais pas encore tout le chemin à faire, tu ne le sais pas, mais tu es la plus belle parmi les femmes. Alors, votre beauté reste, il va vous aimer, il va vous aider si tu ne le sais pas. Mais nous devrions le savoir, hein? Mais on doit l'apprendre. Si tu ne le sais pas, la plus belle parmi les femmes, sors sur les traces du troupeau, et j'aimerais que vous trouviez ces traces. Hein? Les traces du troupeau, qu'est-ce que c'est que les traces du troupeau? Qu'est-ce qu'un troupeau fait? Il devance le berger, il suit le berger. Alors les traces du troupeau, c'est les traces de qui? Du berger, c'est les traces du Seigneur. Alors vous tombez dans 1 Pierre 2, verset 21, n'est-ce pas? Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Et on pourrait vous faire tout un sentier avec ces traces, en appelant chaque trace par un nom qui vous fait avancer dans la vie spirituelle. Sors sur les traces du troupeau. Non, ne t'isole pas. Ne t'isole pas. Mais paie tes chevreaux, parce que toi aussi, tu as un ministère. Amène les jeunes âmes auprès desquelles tu peux rendre témoignage. Amène-les aussi auprès des troupeaux, paie tes troupeaux près de l'habitation des bergers, pardon. Paie tes troupeaux près de l'habitation des bergers. Ne devenez jamais sectaire. Gardez-vous de cela. Et puis, reconnaissez aussi qu'il y a d'autres habitations que la vôtre, mais ce qui est essentiel, c'est que ce soit un berger reconnu du Seigneur. Voilà. Nous nous arrêtons là. Nous n'avons fait encore, quoique ayant été peut-être plus long que je ne pensais, qu'effleurer certaines vérités. Nous espérons ne pas vous avoir fatigué ni détourné du culte d'adoration que nous désirons poursuivre à la gloire du Seigneur après cette préparation.